Les paraboles, la parabole du semeur, c'est une des plus connues, là. Je parlais tantôt des catholiques. Les catholiques la connaissent très bien aussi, là. Même certains connaissent cette histoire-là, puis ils ne savent même pas que c'est dans la Bible. Elle est présente dans les trois évangiles synoptiques, là, dans Matthieu, Marc et Luc. On va aller lire les passages. En gros, c'est la même parabole, mais certains donnent des petits détails différents. Matthieu 13, 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer, et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils le vinrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. » Puis les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas en ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir, en sorte que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment. Et dès que vient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Bon, on va aller voir dans Marc. Marc 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Et toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. » Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, il fut brûlé et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et croissait, un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur ces paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles. Afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous les autres paraboles? » Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Écrit presque de la même manière, il y a des petites différences, là, mais on voit, c'est vraiment la même parabole. Dans Luc 8, verset 4, « Une grande foule s'assembla, et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. » Et il dit cette parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. » Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un bon cœur et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Légèrement différent ici, là. On voit le style de Luc qui est concis. Donc, dans quel contexte que Jésus raconte cette parabole? Je pense que dans les trois évangiles, c'est dans le même contexte. C'est au moment où Jésus prêche de ville en village, de ville en ville, de village en village, il est dans la Galilée. À ce moment-là, les 12 disciples ou les 12 apôtres sont déjà choisis, sont auprès de lui. Mais il y a toute une foule qui vient aussi. Puis, dans le même contexte, là, dans Matthieu et dans Luc, c'est juste avant. Dans Matthieu et dans Marc, c'est juste avant, et dans Luc, c'est juste après. Mais en tout cas, on dirait que c'est la même journée où Jésus déclare que sa vraie famille, ce sont les serviteurs de son Père, ceux qui obéissent, qui font la volonté de son Père, même plus que sa mère de sang, que ses frères de sang qui venaient pour lui parler. Donc, c'est dans ce contexte-là où il dit, ceux qui sont de ma famille, là, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, on comprend que c'est peut-être de ça qu'il parle, lorsqu'il parle des fruits. Ben, c'est sûrement de ça. Et il a rencontré de l'opposition de la part du peuple. C'est pour ça qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ils sont devenus insensibles, ils sont incrédules. Il enseigne à une grande foule en parabole. Et là, ici, il ne leur donne pas l'explication. Si on avait eu juste la parabole du semeur sans explication, je ne sais pas quelle conclusion qu'on aurait trouvée, là. Même si ça peut nous sembler quand même assez évident à nous qui avons le Saint-Esprit. Mais en tout cas, ce jour-là, il voulait montrer un signe aussi, là, qu'eux, ils ne leur donnaient pas l'explication. Ils le donnaient en privé à ses disciples. Qui est représenté par le semeur? C'est celui qui annonce la parole. Ce jour-là, c'était Jésus. Ensuite, il a délégué cette tâche à ses disciples. C'est celui qui sème la parole. Celui qui prêche. Et qu'est-ce qu'il sème? On vient de le dire. La parole du royaume. Le royaume des cieux. Dans Marc, il dit le royaume de Dieu. Mais c'est l'Évangile, avant qu'il qu'il sème, c'est la bonne nouvelle. Et les quatre terrains, qu'est-ce qu'ils représentent? Oui, le cœur de l'homme. Oui, la réaction, c'est ça. Bonne réponse. C'est quatre réactions différentes à la présentation de l'Évangile. Donc, comment les gens réagissent lorsqu'ils entendent l'Évangile? Je ne sais pas, mais en tout cas, le pourcentage de chrétiens au Québec n'est pas haut. Bon, la vérité centrale de cette parabole, c'est ça qu'on vient de dire, dans le fond. C'est que dans le monde, il y a différentes réactions à la présentation de l'Évangile. C'est sûr qu'il y a d'autres enseignements qu'on voit aussi, là. C'est riche. La première chose qui nous frappe, c'est que c'est la même semence qui est semée partout, là. Mais c'est la réaction qui est différente. Là. Qu'est-ce que représente la semence qui tombe le long du chemin? Le cœur dur, ouais. Insensible. Incrédule. Ça représente des gens qui entendent. Peut-être qu'ils voient le film de Jésus de Nazareth, là, dans le temps de Pâques. Ouais. Mais ils ne comprennent pas, ils ne croient pas. Ça ne vient pas les toucher. Parce que c'est sûr qu'il n'y a aucune parabole qui couvre tous les domaines, là. Mais ici, on représente comme la première réaction quand on reçoit la parole. Et les oiseaux qui mangent la semence, ou les pieds qui... je pense que c'est dans Marc qui dit qu'elle est foulée aux pieds. Le diable vient. Donc la semence, ça ne peut pas rentrer, là, parce que c'est une terre très dure, c'est le chemin. En plus, le diable vient et enlève ça. Là. Personne ne peut blâmer le diable du fait de son incrédulité. Mais le diable, c'est comme s'il coopère avec lui, là, pour être sûr qu'il ne comprenne rien. Lui, il saisit toutes les occasions pour enlever la parole qui est semée. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de réaction? Ben oui, ça nous attriste. Oui, quand c'est quelqu'un de la famille, c'est dur aussi. Là. On dit, ça se peut pas. Donc, ceux que ça ne les touche pas, ben, la situation au Québec présentement, on dirait que c'est la majorité. Là. C'est presque tout le monde, la population. Et que représente la semence qui tombe dans un endroit pierreux ou rocailleux? Ben, ceux-là, c'est surtout quand vient la première épreuve. Donc, c'est comme un feu de paille. Là. Tu leur annonces l'Évangile, puis « Ah, wow! » Ils veulent embarquer tout de suite, là, puis ils veulent devenir membres tout de suite. Là, puis... Mais le feu, là, il rebaisse aussitôt qu'il y a une épreuve. Aussitôt qu'il y a un choix difficile à faire. La graine là, tombe dans la terre, puis elle ne descend pas creux. Quelques millimètres de terre. Là. Donc, elle germe tout de suite. Puis elle grandit tout de suite. Mais il n'y a pas d'humidité dans la terre, comme dit Luc. Puis il n'y a pas de racines qui se forment non plus. Là. Donc, aussitôt que le soleil se lève, là, qu'il fait chaud, là, elle meurt. Mais pourtant, il y a eu un sentiment. Il y a eu même une joie. Là. Il y a peut-être même, jusqu'à un certain point, une sincérité dans le cœur de la personne. Là. Puis le soleil qui fait mourir la plante représente quoi? Ben, les épreuves de la vie. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de réaction? Ça peut être quoi, le genre d'épreuve qui décourage un nouveau chrétien? Oui, la famille qui le rejette ou qui le menace à cause de sa foi. Une genre d'épreuve qui n'a comme pas rapport là, avec ce qui vient de se passer, mais il subit une épreuve puis il se demande pourquoi Dieu permet ça, là? Je me suis converti, je suis rendu son enfant, puis Dieu permet une grosse épreuve comme ça, ça se peut pas, Dieu n'existe pas, il abandonne. Donc des fois, c'est pas toujours une épreuve qui est reliée à la conversion. Ça peut être une épreuve comme ça, ou la perte d'un travail. Ou... Non, c'est pas dans la parabole, ça, mais c'est vrai. Une plante tout seule, là, elle se fait brosser par le vent. Puis... C'est ça, la plante pousse quand même, mais la caractéristique, c'est qu'elle porte pas de fruits. Donc ça peut être un chrétien qui est même dans l'Église depuis plusieurs années, là. Mais il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de croissance spirituelle, il ne porte pas de fruits. Il n'est jamais dans une attitude de repentance, d'humilité. Il dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe là. Mais son esprit est occupé au plaisir de la vie, aux soucis de la vie. Des fois, c'est les peurs, les inquiétudes. Donc, c'est ce que représentent les épines, là. C'est les soucis du monde, la séduction des richesses. Et l'invasion d'autres convoitises, les plaisirs de la vie. Luc qui dit les plaisirs de la vie. Vous avez déjà vu ce genre de réaction? Oui. Des fois, on peut être surpris, là, parce qu'il y a des chrétiens qui sont parmi nous depuis plusieurs années, là. Ils sont peut-être étouffés par les... Mais éventuellement, ben, ils finissent par mourir. La parabole ne va pas jusque-là, mais ils ne se multiplient pas non plus. Et que représente la semence qui tombe dans la bonne terre? Eux, ils entendent la parole, ils comprennent et ils portent du fruit. OK? Puis les fruits, ça représente quoi? Les bonnes œuvres, c'est ça, la repentance, tu vois, l'attitude. Tu vois que la personne grandit spirituellement, là. Normalement, les changements sont visibles. Puis c'est bon, là, c'est sous-entendu, mais les grains qui sont produits, c'est comme une reproduction aussi, une multiplication. Donc, c'est un effet qu'on a sur d'autres. Tous ces grains-là peuvent être semés puis se remultiplier. Et Jésus en parle aussi. On a des fruits au début de notre vie chrétienne qui sont plutôt un changement intérieur. Là. Mais avec la maturité chrétienne, tout à coup, on commence à changer les autres. On a un effet sur d'autres et on fait des disciples. Là, c'est des fruits qui demeurent. En tout cas, ici, il ne parle pas de différents fruits, là, mais... Mais l'arbre, est-ce que c'est une personne ou c'est l'Église, c'est un groupe de personnes? Pas parce que tu es dans l'Église depuis toute ta vie que tu es réellement un chrétien. Tu peux être une branche qui est sec, qui ne porte pas de fruits. OK, et selon Luc, le fruit est produit par quoi? C'est à la fin. Oui, par la persévérance. C'est peut-être, le fruit, il ne sort pas nécessairement le premier jour. Là. Mais on voit qu'il porte du fruit par la persévérance, il produit du fruit. C'est une bonne indication. Vous avez déjà vu de ce genre de réaction? Bien, c'est sûr. C'est le miracle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. C'est ce qui nous réjouit aussi. On se réunit et on est édifiés. Puis on voit les autres qui grandissent, puis nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements dans cette parabole? Vous en avez déjà mentionné plusieurs, mais il y en a un enseignement qu'on a mentionné, c'est qu'on doit s'attendre à avoir différentes réactions de la parabole. C'est comme si Jésus nous dit... C'est normal. Vous allez voir, lorsque vous prêchez, vous répandez la bonne nouvelle, là, vous allez voir de toutes sortes de réactions. C'est normal. Oui, donc la parabole s'adresse même à ceux qui savent qu'ils sont chrétiens, là, qui persévèrent, qui portent du fruit. La parabole s'adresse quand même à eux, parce qu'on est encore appelé à écouter la parole et à porter davantage de fruits, à persévérer. Même si on sait qu'on est dans la bonne terre, la parabole nous touche quand même, là. Dans les quatre terrains ici, lesquels représentent ceux qui sont sauvés? Il y en a juste un, en fait. Oui, c'est seulement la bonne terre. Donc, on peut s'étonner parfois de voir des chrétiens qui... il y a une plante qui a poussé. Puis même, la plante a duré pendant un certain temps, puis ils s'en vont. Est-ce qu'il a perdu son salut? Ici, on voit qu'il n'y a pas de transfert de terrain, là. C'est pas une plante qui, tout à coup, elle s'en va dans un chemin rocailleux ou elle s'en va parmi les épines, là. La plante qui a des épines, elle a toujours été des épines. Mais elle a poussé... Elle a fini par être envahie. Ça, c'est un autre enseignement qui est comme en second niveau, là. C'est qu'il n'y a aucune plante qui a choisi dans quelle terre elle allait pousser. Puis Jésus vient de dire, oui, il dit, là, entre la parabole et son explication, là, il dit, vous, là, vous êtes un peuple insensible, vous n'avez pas d'oreilles pour entendre. Et ce qu'il dit, dans le fond, les oreilles pour entendre ne vous ont pas été données. Vous n'avez pas Dieu pour voir. Vous n'êtes pas poussé dans la bonne terre. Vous êtes dans une terre incrédule. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables et à blâmer du fait qu'ils ne reçoivent pas la parole. Non? Mais dans un autre, du point de vue du semeur, la semence, c'est lui qui l'a envoyé, là, qui a permis qu'il y en ait qui tombent sur la route. Là. C'est seulement la semence qui tombe dans la bonne terre qui va pousser. Mais il y a un autre enseignement aussi. On voit dans la parabole que toute la semence qui tombe dans la bonne terre pousse. Ça ne dépend même pas de la semence, ça ne dépend pas du degré de réception, là, ça dépend de la terre, ça dépend de l'état de la grâce de Dieu. Non, mais normalement, les chrétiens de l'Église devraient être ceux qui sont dans la bonne terre. Mais il s'introduit des gens qui ont poussé dans un sol rocailleux ou parmi les épines. Mais Jésus ne nous demande pas d'évaluer, lui, c'est-tu un... Non. Es-tu vraiment dans la bonne terre, sinon, out? Mais il y a un principe qui est fait de manière indirecte, c'est la discipline dans l'Église. Quelqu'un qui subit sa première épreuve et qui n'est pas capable de la passer, c'est plus fort que lui, va abandonner de lui-même l'Église souvent. Ou si c'est un chrétien qui veut persévérer quand même à l'Église, mais il n'y a pas de changement, là, puis il est envahi par les plaisirs du monde, il tombe dans le péché, il ne veut pas se repentir, la discipline de l'Église fait qu'il va être sorti. Donc, il y a comme un filtrage naturel qui se fait. Mais pendant un temps, on considère qu'il n'est pas dans la bonne terre. En espérant qu'il était dans la bonne terre, on sait jamais, là, on continue de prier. Et l'humilité, la repentance, accepter la correction... Le reproche, c'est un fruit de base de tout chrétien. Là.
Mais les fruits ne seront pas nécessairement visibles à tous. On se connaît pas tous de façon profonde. Là. Fait qu'il y a des fruits qui ne seront pas visibles à tout le monde. Mais il doit y avoir des fruits.
Oui, Bernard?
Je crois que quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, et il a un désir pour Dieu, il a une soif de Dieu, il a une soif de lire sa parole, il a une soif de venir à l'Église. Il commence, peu importe où il est rendu, il a un désir pour Dieu, un désir surnaturel de vouloir se laisser transformer. Puis s'il n'y a pas ces éléments-là, on peut se poser des questions s'il a vraiment pris une décision pour Dieu. Puis cette soif-là de vouloir connaître plus, fait qu'il va vouloir se rassembler, il va lire d'une façon personnelle la parole de Dieu. Puis s'il ne fait pas ça, il ne peut pas grandir, il va mourir, il va être fou, il va être fou dans le doute, parce qu'il va tout voir autour de lui par les yeux. Bien, c'est du hasard, c'est ici. Il ne prendra pas la parole de Dieu comme étant la vérité, la base de sa foi, la base du pourquoi qu'il croit.
C'est ça. Mais ça, c'est avec le temps qu'on le voit.
C'est ça.
Si finalement, il se fait étouffer par les épines ou...
Il faut qu'il y ait un désir pour la parole de Dieu. S'il n'y a pas un désir, tu te poses des questions.
Oui, c'est sûr. Parce que tu dois l'accepter.
C'est ça. Ouais. Et là, il y a un processus qui se fait.
Tu la reçois. Le salut dépend de la réaction de la parole et non de la manière dont elle est présentée aussi. C'est pas parce qu'on est un bon évangéliste qu'il y a plus de monde qui va se convertir. Mais Dieu peut nous utiliser d'une manière plus spectaculaire que d'autres. Là. Mais tu te fais aimer. Waouh, les gens m'aiment. Mais avec le temps, ce qu'on devrait voir, c'est que toi, tu commences à aimer. C'est là où ce qu'on voit, c'est un vrai chrétien. Tout le monde veut se faire aimer. Mais es-tu prêt à aimer les autres? Là? Il y a un seul terrain qui représente ceux qui sont sauvés. Donc, c'est une minorité. On doit s'attendre à ça. Mais tous ceux qui tombent dans la bonne terre sont sauvés. Il y en a beaucoup qui voient une allusion à l'élection ici. Parce qu'il n'y a aucun grain qui a décidé dans quelle terre qu'elle allait être. Le grain qui tombe dans la bonne terre. Le fait qu'il y ait un grain qui tombe dans la bonne terre, c'est la personne qui reçoit le Seigneur. La personne n'est ni la terre ni le grain, là. C'est le principe d'un grain qui tombe dans la bonne terre. OK, mais l'argument reste le même. La personne choisit quel terrain qu'il va être. Mais ce qui est représenté, c'est la réaction, là. Mais ici, c'est clair que la semence elle-même, c'est la parole qui est semée, là. En tout cas, ça dépend de notre interprétation, mais dans le contexte, il me semble que c'est ce que Jésus dit, là. Mais on peut se poser la question. La persévérance ne procure pas le salut. Ça démontre le salut. Donc, avec la persévérance, tu portes des fruits. Mais c'est pas à cause que tu portes des fruits que tout à coup, tu deviens sauvé. Ceux qui sont sauvés vont porter du fruit. On est exhorté aussi à la sincérité, à la persévérance, à porter du fruit, à avoir une terre qui est bonne. Mais c'est indirect. Jésus ne le dit pas directement, là. Mais en écoutant cette parabole-là, on est quand même interpellé. Je sais, j'ai porté du fruit, mais là, est-ce que je suis en train de laisser des épines m'envahir, là? Ou je suis en train de devenir dur? Quand j'écoute la parole, les oiseaux viennent puis ils mangent la semence. C'est pour ça que Jésus, par ses paraboles, parle à tout le monde. On va voir une dernière, mais qui va un peu avec celle qu'on vient de voir, là, le figuier stérile, en Luc 13. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Il dit aussi cette parabole. « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année et d'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier et peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc, c'est quoi le contexte ici? C'est un peu différent, mais Jésus a quitté la Galilée. Il est en route vers Jérusalem. Mais quand même, il prêche un peu de la même manière. Là. Il prêche aux foules. Il y a ses disciples qui sont là. Il y a des croyants et des incroyants. Et pourquoi Jésus raconte cette parabole-là? Parce qu'il est abordé par des gens qui lui racontent ce qui s'est passé avec les Galiléens qui ont été tués par Pilate. Jésus devine leurs pensées. Là. C'est pas dit ici, mais on le voit. Eux, ils se disent, ces Galiléens-là, là, sûrement qu'ils étaient de grands pécheurs. C'est pour ça que Dieu les a punis. Dans le fond, ils racontent ça à Jésus parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'on est correct de penser que ceux qui sont coupables devant Dieu, Dieu va les tuer, va leur envoyer des malheurs? C'est bien ça? Jésus répond, non, vous êtes dans le champ. Vous êtes tous pécheurs. Là. Les historiens aussi, il y a plusieurs historiens qui parlent dont l'historien Joseph, là, il parle de Judas le Galiléen. C'était un chef d'un groupe rebelle à l'Empire romain. Puis vous vous souvenez, lorsque Jésus est né, il y avait eu un grand recensement qui avait été commandé. C'est pour ça que Marie et Joseph ont dû se déplacer jusqu'à Bethléem. Mais ce recensement-là, là, ça ne faisait pas le bonheur de la population. Là. Il y a eu du grognement. Puis il y a cet homme-là, Judas le Galiléen, qui a commencé à ramasser des gens dans sa gang pour faire une rébellion. Puis il espérait ramasser le plus de gens possible pour libérer le pays. C'était les Zélotes. Puis ils étaient rebelles à l'Empire. Puis il y en a plusieurs parmi eux, ça c'est rapporté aussi, Un jour, il se rendait au temple pour offrir le sacrifice, puis Pilate a envoyé ses soldats pour les tuer. Donc, ils sont morts, dans le fond, avec leur sang a été mêlé au sang de leur sacrifice. C'est intéressant de voir, on voit ça dans Acte 5, Gamaliel, c'est lorsque les apôtres avaient été arrêtés. Puis là, le Sanhédrin évalue la situation, voir qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Puis Gamaliel, il était très respecté, là. C'est lui qui avait formé Paul. Il se lève, puis il parle justement de Judas le Galiléen. Il dit, « Vous, Israélites, prenez garde de ce que vous avez l'intention de faire à ces hommes, c'est-à-dire aux apôtres. Car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes, et il fut tué. Et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute. Et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite, et il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. » En tout cas, on voit que les Galiléens qui étaient rebelles ont fini par être détruits. Pas tous, parce qu'à l'époque de Jésus, il en restait encore. Là. Donc là, Jésus leur raconte cette parabole-là. C'est qui le maître de la vigne, le maître, le propriétaire du figuier? C'est Dieu. Et le vigneron? Ouais, ça peut être l'Église. Ça peut être un chrétien qui prend soin de quelqu'un d'autre. C'est Jésus aussi qui est à la tête de l'Église. Il est comme le vigneron en chef. Il est comme Dieu le Fils et Dieu le Père qui se parlent. Donc, c'est Jésus ou ses disciples. Donc, l'Église. C'est bon. Et le figuier stérile. Oui, dans le contexte, c'est les Juifs qui... et en particulier, lesquels parmi les Juifs? Oui, donc tous ceux qui ne... Et ceux qui ne portent pas de fruits dans le contexte ici, là, dans cette parabole-là, ce sont ceux qui ne se sont jamais repentis. Donc, c'était presque tout le peuple d'Israël là, à l'époque de Jésus, là. Les pharisiens, tous ceux qui ne se repentent pas. Et quel est l'enseignement principal de cette parabole-là? Oui, Dieu est patient. Il laisse du temps, là. Mais il s'attend à quoi? À la repentance. Il laisse du temps, mais pas juste pour avoir un beau figuier pour l'esthétique de sa vigne, là. Il veut des figues. Donc, il est prêt à attendre. Il attend. Puis Jésus, il met du fumier. Il fait tout ce qu'il faut. Il donne plusieurs occasions. Puis le maître est prêt à attendre. Il patiente. Pour voir une repentance. Il laisse du temps. Et qu'est-ce que Jésus enseigne aussi dans le contexte où il raconte cette parabole-là? Ça, c'est une autre leçon qui est là aussi. Là. C'est qu'un jour, il va être trop tard. Là. Parce qu'il dit, si finalement il ne porte pas de fruits, ben, il va être coupé. Le vigneron est d'accord. Tu le couperas. Donc, c'est une leçon qui est là aussi. Dieu patiente. Puis on dirait que Dieu, bon, ça ne dérange pas trop. Non, mais le jour de la mort de quelqu'un ou le jour que Christ va revenir, il va être trop tard, là. Oui, c'est vrai. C'est pas seulement de souhaiter ou de désirer quelque chose, là, mais on prend une action. Oui, Fisney, révise régulièrement là, la liste de ceux qui nous ont abandonnés. On prie pour eux, on essaie de les recontacter. Mais des fois, on n'a même plus de contact. Là. On n'a même plus de numéro de téléphone. On ne sait plus ce qu'ils sont. Une autre chose qu'on voit aussi, c'est que tous ont besoin de repentance. La repentance, c'est ce qui permet de porter du fruit. Et ceux qui n'ont pas porté de fruit ou ont manqué de persévérance peuvent toujours se repentir. C'est possible. Donc, nous, on prie parce qu'on ne sait pas si... C'est dans la bonne terre. On prie. Mais l'exhortation, c'est toujours possible là, avant la fin, mais l'exhortation, c'est quand même de se repentir maintenant. Parce que tu ne sais pas le jour. Ouais. Bon, on va conclure là-dessus. Amen.